talmudique. Le premier verset de la Torah, qui a été lu ce samedi à la synagogue, commence par la phrase « Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz » que l'on traduit traditionnellement par « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre ». Il existe bien sûr de très nombreuses autres traductions qui se doublent de très nombreux commentaires. Celui du Midrash Rabbah est très surprenant. En guise de commentaire, il choisit de citer un verset du livre des Proverbes « J'étais auprès de lui comme un tuteur, jouant chaque jour, jouant devant lui à chaque instant ». C'est la sagesse qui est le sujet de la phrase, la sagesse qui se présente comme un tuteur, pédagogue, dit le texte, un mot grec dans le texte hébreu. Pour le Midrash, la création du monde, c'est la création de chaque enfant que l'on amène à l'école pour qu'il apprenne, pour qu'il se forme et puisse grandir de la meilleure façon possible. Ainsi, commencer la Torah par le récit de la création du monde, c'est nous rappeler à la responsabilité de l'éducation de nos enfants et bien évidemment de nous-mêmes. Le parallèle entre le monde et l'enfant est intéressant à suivre car les étapes de la création du monde décrites dans le texte biblique sont en quelque sorte les étapes de la création de l'enfant. L'évolution de son esprit, de son intelligence, de sa sensibilité, de la maîtrise de ses comportements envers lui-même et envers les autres. Acquisition d'une sagesse qui avec le temps va lui permettre de prendre des décisions réfléchies relatives à la conduite de sa vie, en un mot, de découvrir et d'exercer sa liberté, une liberté qui ne sera pas que spéculative, mais qui se traduira dans l'action par un art de vivre à la recherche de ce que nous appelons, d'un mot qui mériterait beaucoup de commentaires, le bonheur. Le chemin vers le bonheur n'est pas simple, car l'homme est un formidable champ de bataille où s'affrontent les désirs et les passions. Si le récit de la création du monde se relie chaque année en ouverture du texte de la Torah, c'est que grandir, apprendre, se former et se transformer est le lot de chaque instant de la vie. Comme dit Eric Fromm, vivre, c'est naître à chaque instant. Les anciens ont proposé des techniques et exercices spirituels. Les philosophes et les théologiens ont réfléchi sur cette science qui conduit au souverain bien et lui ont donné le nom de morale ou d'éthique. Le judaïsme a participé à cette grande construction d'une sagesse morale depuis les textes bibliques jusqu'à nos jours, en passant par le Talmud, les traités de philosophie et de théologie, et les traités spécifiquement consacrés à ces questions, ainsi que la création, par Rabbi Israël Salanter au XIXe siècle, d'un mouvement entièrement centré sur l'éthique, mouvement appelé Tenuat HaMoussar. Et pour ce voyage au pays de l'histoire de la tradition éthique du judaïsme et dans le judaïsme, j'ai le plaisir de recevoir l'un de ses plus grands spécialistes qui a consacré ces dernières années 3 tomes importants sur ces questions. Georges Elias Sarfati, bonjour.
Bonjour.
Georges Elias Sarfati, vous êtes linguiste, traducteur, philosophe, poète et psychanalyste existentiel. Vous avez été professeur titulaire au département de langue et littérature française de l'Université de Tel Aviv et vous êtes actuellement directeur de l'école française d'analyse et de thérapie existentielle Logothérapie qui s'inscrit dans la lignée et poursuit l'œuvre de Viktor Frankl. On est tenté de vous demander tout d'abord comment, à partir de vos différents travaux, en êtes-vous arrivé à vous intéresser particulièrement à la tradition éthique dans le judaïsme ?
Eh bien, votre question va m'amener à revenir quelque peu, au moins, sur un fragment de ma biographie et d'en traverser les époques à grands pas. C'est d'abord un souvenir d'adolescence, celui d'un grand-père paternel qui était à la bonté même et qui se prénommait Elia. Qui un jour, en rentrant de la synagogue, m'a mis entre les mains un vieux bouquin, un peu défraîchi, auquel il manquait même la couverture, et il s'agissait des Hovot Alevavot de Bechaye ibn Pakuda, les devoirs des cœurs. Alors, comme on le sait, l'auteur établit une distinction entre les devoirs extérieurs, qui sont les mitzvot, et les devoirs intérieurs, qui sont les midot, c'est-à-dire les traits de caractère, et par extension les vertus, dans le meilleur des cas. Cette caractérisation m'avait beaucoup impressionné et finalement, ça a été pour moi un point de départ important puisque ce traité important du Moussar posait un prisme critique. Un prisme critique qui consistait à affirmer la nécessité de toujours mettre en accord ses intentions, ses dispositions psychologiques avec ses actes. Autrement dit, de mettre en lien, en correspondance harmonieuse, le sens et ses expressions. Et puis plus tard, il y a eu la lecture de Yehuda Levi dans le livre du Kuzari, à Lévi dit que pour que la Shekhina, la présence divine, advienne, il faut que deux conditions soient remplies. La première, c'est que l'on observe des préceptes qui sont des préceptes divins. Et la seconde, c'est qu'on observe ces préceptes avec sincérité, avec authenticité. Alors évidemment, cette perspective posait en tant que perspective critique une sorte de contraste avec la réalité. Qu'est-ce que j'observais autour de moi ? Trop souvent, de nombreuses communautés qui étaient en fait aux prises avec, je dirais, une religiosité routinière et finalement un conformisme de plus en plus atterrant. C'est ça le point de départ du moussard, y compris le moussard moderne de Rabbi Israël Salanter dont nous allons parler amplement aujourd'hui. Par la suite, je n'ai eu de cesse finalement de rechercher la justesse de la visée éthique dans la pratique et des différents domaines que j'ai entrepris. Alors la linguistique, puisque je me suis intéressé surtout aux auteurs de la linguistique politique, comme Victor Klemperer, Jean-Pierre Fay ou Antonio Gramsci, dont on oublie qu'il était un linguiste avant tout, et qui sont finalement des auteurs préoccupés du totalitarisme et de sa réfutation. Ensuite, la traversée de l'expérience psychanalytique m'a mis devant les yeux finalement les limites d'une anthropologie qui faisait peu de cas du plan spirituel. Donc après avoir achevé cette traversée, je me suis tourné en tant que praticien, en tant que professionnel, vers la psychanalyse existentielle, notamment de Viktor Frankl. Et puis la philosophie que j'ai entreprise sous le rapport de la philosophie morale, précisément, et pour les raisons que nous avons vues. Or, qu'ai-je constaté dans ce milieu, un milieu d'experts dont l'expertise culminait le plus souvent dans une sorte de scolastique inopérante et finalement qui m'apparaissait comme des gens ni plus ni moins préoccupés de justice pratique et ni plus ni moins révoltés que la moyenne des hommes. Surtout, il y a eu deux expériences sociales, même culturelles. Tout d'abord, lorsque j'ai voulu m'informer auprès de mon entourage de la place du moussard dans les yeshivotes.
Alors préciser, la place du moussard, c'est, on va le voir, c'est la place moussard, de la morale.
La place de la morale ou de l'éthique, comme on voudra, dans les yeshivotes, notamment en Israël. Eh bien, en parlant avec un certain nombre de jeunes gens issus de ces milieux, j'ai constaté que, bien qu'ils connussent le mot moussard et la notion d'éthique, évidemment, et de morale, puisque c'est l'essence même de leur formation, ils n'avaient qu'une faible connaissance, voire une méconnaissance réelle, des sources textuelles du moussard, de la tradition du moussard. Et finalement, dans leur esprit, comme dans leur expérience, ce fameux moussard correspondait plutôt à une sorte de moralisme austère, et qui, dans le meilleur des cas, permettait de tempérer, je dirais, les ardeurs impatientes de jeunes gens en phase prénuptiale. D'autre part, et au mieux, c'était une littérature édifiante, une littérature d'édification. Et puis, la deuxième expérience, plus impressionnante encore pour moi, plus dramatique d'une certaine façon, c'était un jour, il y a très longtemps déjà, dans les rues de Tel Aviv, alors que je me promenais, c'était la semaine de Pessah, je suis tombé sur un groupe de jeunes Israéliens juifs qui déambulaient en chantant Hare Krishna. Et là, j'étais vraiment interloqué, c'est la première fois que je voyais ça en Israël. C'était finalement pour moi des gens qui m'ont un peu étonné d'abord, et puis finalement apitoyé. Je me suis fait à part moi cette réflexion que c'était des pauvres enfants perdus, pour reprendre l'expression du Hafetz Chaim. Et par extension, évidemment, comme je vis entre la France et Israël, j'ai pensé aussi à une grande partie de la jeunesse européenne, trop souvent coupée de ses sources évangéliques. Voilà en quelques mots le fil rouge de ce cheminement.
Alors, beau fil rouge, nous avons parlé d'éthique, de morale, vous avez évoqué le terme de moussard. Les philosophes et les linguistes soulignent à quel point éthique et morale sont des mots interchangeables, car lexicalement, ils signifient exactement la même chose. Et il est donc toujours très important d'en définir le sens avant de les utiliser. En effet, morale, par exemple, vient du latin mos, au pluriel mores, qui signifie les mœurs, la coutume, l'usage, et a désigné ensuite la moralité d'un acte, c'est-à-dire un acte conforme à l'usage. On retrouve ce mot dans l'expression more judaico, c'est-à-dire selon la coutume juive. Éthique, lui, vient du grec ethos, qui signifie aussi la coutume, l'usage, l'habitude. Mais l'hébreu utilise le mot moussard, Georges Elias Sarfati.
Alors, il faut rappeler effectivement qu'en hébreu biblique, le champ lexical et sémantique du mot moussard est assez ample. En tout cas, on peut le ramener à trois L'exem possible a trois vocables possibles, instruction, discipline et correction. Et en hébreu moderne, il faut savoir que le mot moussar, on l'a compris d'emblée, a été traduit assez vite par éthique. Et on en trouve la première occurrence, la première attestation sous la plume de Achadam, le fondateur du sionisme culturel. Et puis par extension, on a évidemment l'adjectif moussari, qui désigne ce qui est moral et de façon générale conforme à l'ordre des valeurs. Mais il faut bien dire que pour la tradition du moussar, le mot moussar désigne avant tout une école de sagesse et l'école de sagesse d'Israël, à la fois sous le double rapport d'une médecine spirituelle et d'une discipline spirituelle. Je voudrais vous donner une citation très brève qui est une définition au fond du moussar qu'a proposé Rabbi Eliezer Papo dans Pele Yoetz, le merveilleux conseil. C'est un auteur du XVIIIe siècle qui dit ceci. L'étude du moussar est la médecine qui permet de traiter l'inclination au mal, le Yetzer Hara. Nous reviendrons en détail sur l'expression Yetzer Hara. Enfin, dans la pensée hébraïque et juive, c'est-à-dire dans la pensée rabbinique, finalement, il ne faut pas oublier que la notion de moussar est indissociable de la notion de chorma, de sagesse. Et on sait que depuis le retour de l'exil de Babylone en -538, la sagesse, la chorma, s'identifie à la Torah, c'est la sagesse révélée. Autrement dit, le moussar, c'est l'instruction morale en tant qu'antichambre de la sagesse révélée. Et finalement, en tant qu'antichambre, de la meilleure qualité possible de l'avodat Hashem, c'est-à-dire du service de Dieu, qui se manifeste dans le judaïsme, surtout par une relation morale vis-à-vis d'autrui. D'autre part, il ne faut pas confondre le discours sur le moussar et la pratique du moussar. Et là, le discours est une sorte de propédeutique, en quelque sorte, tandis que le mot moussar, d'une certaine façon, voile, en même temps qu'il révèle, ce qu'est la pratique du moussar. Et de ce point de vue-là, aucune traduction ne peut rendre compte d'un ensemble d'exercices spirituels.
Alors, ce qui questionne dans votre propos, c'est le fait que vous utilisez, par exemple, dans une de vos phrases, dans une de vos dernières phrases, le terme de service divin. On comprend qu'on est dans un contexte du judaïsme, mais on a l'impression que le moussar ne concerne que le judaïsme religieux, que le judaïsme de personnes qui pratiquent les commandements, et que cette éthique du moussar, cette éthique de la sagesse du judaïsme, ne concernerait pas les autres personnes. Ça semble assez restrictif d'une certaine manière.
Vous avez entièrement raison de souligner ce fait qui est un fait sociologique. On peut le déplorer puisque la tradition éthique du judaïsme est une tradition universelle et universaliste et par conséquent elle s'adresse à tout le monde, y compris aux non-juifs, dans la mesure où il y a des corrélations et des ponts extrêmement ténus entre la sagesse d'Israël et les autres écoles de sagesse. Avec cette spécificité néanmoins qu'il s'agit effectivement de l'avodat Hashem, du service de Dieu en quelque sorte, qu'on traduit très souvent et de façon impropre par le culte. En réalité c'est bien plus que cela, ce sont des manière de vivre. C'est une relation profondément morale à autrui, fondée sur la distinction que l'on fait dans le Tanakh entre l'amour du prochain et l'amour de l'étranger. Et ça, c'est quelque chose de très important qui met en évidence effectivement la relation entre le particulier et l'universel.
Alors, dans la majorité des textes qui utilisent le terme de moussar, et vous l'avez dit, en particulier dans le livre des Proverbes, le sens qui lui est accordé est celui d'instruction, d'éducation, mais le fait qu'il signifie aussi correction et punition, ne donne-t-il pas à ce mot une connotation moralisatrice, culpabilisante et répressive? Et n'est-ce pas ce qui, pour beaucoup, l'a rendu, j'ose le dire, si antipathique tout au long de son histoire? Une compréhension du moussar qui a contribué à promouvoir un judaïsme triste, contrit, courbé, flagellant, culpabilisé et culpabilisant, plus tourné vers les ténèbres que vers la lumière, plus orienté vers la punition, la peur de la faute et de la mort que vers la joie de vivre et l'enthousiasme d'un futur riche de promesses. Le moussar, on a l'impression, par la manière dont certains l'ont véhiculé, n'a-t-il pas contribué à vivre dans le rejet du corps et de ses passions, transformant l'homme, selon une expression que l'on trouve dans Don Quichotte, en un chevalier à la triste figure? Et n'est-ce pas, Georges Elias Sarfati, à cette vision du moussar que le chassidisme du XVIIIe siècle s'est opposé pour promouvoir une philosophie de la joie, de l'espérance et de l'estime de soi?
Vous rappelez à juste titre les connotations répressives qui entourent la notion et l'existence même du moussar, et c'est incontestable. Mais il faut tout de suite préciser que toutes ces connotations sont en quelque sorte des effets de discours de la grande controverse qui a été déclenchée contre les moussarniques, contre les tenants du moussard, en particulier, vous l'avez rappelé, par l'opposition du chassidisme au tenant de la tradition juive talmudique, et surtout aussi, pas moins du moins, à l'hostilité qui s'est exprimée à l'encontre même de l'initiative de Rabbi Israël Salanter au sein même de ses propres rangs. Donc ces effets du discours cumulés ont donné lieu à cette image extrêmement noire, extrêmement sombre. Pour autant, dans la tradition du moussard, qu'elle soit antérieure à Rabbi Israël Salanter ou inhérente à ses enseignements même, il faut rappeler que le mot moussard ne s'entend jamais autrement que comme instruction morale. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Et s'il est question de correction, ça n'est pas du tout au sens de punition ou de châtiment, mais plus exactement, toujours de rectification. C'est presque un synonyme du tikkun, si vous voulez, la réparation. Et on connaît l'ampleur et la portée de la notion de tikkun. Il y a tikkun olam aussi dans la tradition ésotérique. Autrement dit, il s'agit de rectifier, de corriger, exactement comme en optique on corrige la vue ou en orthopédie on corrige la marche, si vous préférez. Il est vrai que le moussard est une tradition d'instruction morale exigeante, mais qui n'a rien d'une pédagogie noire que lui prêtent ses détracteurs.
De Max Bruch, deuxième mouvement, Theodora Miteva au violoncelle, The Women's Philharmonic de Vienne, dirigée par Isabella Chareiko. Pourquoi ce choix, Georges Elias Sarfati?
Au-delà du thème même du Kol Nidre, c'est la fougue et la tendresse de l'interprétation de Theodora Miteva qui me touche particulièrement et qui reflète pour moi la fougue et la sensibilité qu'il faut mettre dans la recherche de la sagesse. Et puis, j'ai un attachement particulier pour Max Bruch, qui n'était pas juif, et comme on le sait, mais qui a su traduire bien des choses de l'âme juive dans sa musique.
Alors, quand vous m'avez proposé ce morceau, et en lisant le premier tome de votre trilogie sur le moussard, sur l'éthique dans le judaïsme, j'ai tout de suite pensé à l'un des personnages clés de cette grande aventure de l'éthique dans le judaïsme, qui s'appelle Rabbi Israël Lipkin, mais qui est plus connu sous le nom de Rabbi Israël Salanter, que vous avez déjà évoqué plusieurs fois, à propos duquel vous racontez cette anecdote que je trouve d'une très très grande portée. En 1848, à Vilna, lors d'une épidémie de choléra, il adopte plusieurs mesures radicales pour éviter la pandémie. Assisté par 70 étudiants de sa yeshiva, il organise un comité d'entraide aux victimes en louant un hôpital doté de 1500 places. Et lors du jour du Kippour, jour de jeûne de 24 heures, au moment du Kol Nidre justement, alors que le jeûne a déjà commencé, en présence de toute l'assemblée, au lieu d'entamer le chant du Kol Nidre, il se retourne vers l'assistance, un verre de vin dans une main et un morceau de gâteau dans l'autre. Il fait la bénédiction sur le vin et sur le gâteau qu'il consomme, invitant les fidèles à l'imiter. Il les invite à manger le jour de jeûne le plus important de l'année, une décision qui, je crois, explique de manière la plus profonde le sens de la prière et du verbe prier, le hitpalel, qui veut dire se juger, réfléchir à soi non en fonction d'un absolu de valeur théorique, mais à partir du contexte concret de chaque situation. N'est-ce pas une belle façon d'entrer dans le mouvement du moussard, que vous appelez mouvement du moussard existentiel, il faudra expliquer pourquoi, existentiel, et une belle façon de découvrir ce maître qui en est l'initiateur, Georges Elias Sarfati. Cette question, en fait, je la dédouble pour la simplifier. Qui est Rabbi Israël Salanter et quel fut son apport à la tradition du moussard?
Comme vous l'avez dit, c'est vraiment la figure clé, puisqu'il est l'initiateur du mouvement du moussard, du Tnouat HaMoussar. Il est doté d'un tempérament de feu et d'une très grande sagacité que l'anecdote que vous avez rappelée illustre profondément. Israël Salanter est né en 1810. C'est un éducateur, un psychologue, un penseur de l'éthique et un métaphysicien. Et il est décédé en 1883, à l'âge de 73 ans, à Saint-Pétersbourg. Un an après le pogrom de Kiev de 1882, qui a été le point de départ du sionisme politique, comme on le sait. Il appartient en ligne directe à la troisième génération des disciples du Gaon de Vilna. Et ce qu'il faut dire, et ça c'est très important, c'est qu'il est le disciple lui-même de Rabbi Yosef Zundel, qui était le Talmid Mouvak, le disciple préféré de Rabbi Chaim de Volozhin, l'auteur du Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Alors, il est très attaché à ce maître, Yosef Zundel, qui va le laisser lorsqu'il a un peu plus de 25 ans pour s'établir à Jérusalem. Et il laissera un Rabbi Salanter en pleine effervescence, déterminé à changer la face de la transmission de l'éthique au sein de la population juive. Rabbi Zundel avait une devise. Il considérait que la croyance en un Dieu spirituel appelait et impliquait une existence spirituelle, et qu'à ce titre, étant donné que ce Dieu spirituel est un Dieu parfait, il fallait, pour véritablement le servir, examiner constamment sa conscience et chercher constamment à s'améliorer sur le plan moral. Donc voici pour l'arrière-plan, je dirais, historique et philosophique de l'inscription de Rabbi Israël Salanter. Maintenant, Rabbi Israël Salanter est surtout un homme de l'oral, il a surtout un enseignement oral, il a laissé très peu d'écrits, mais ses écrits sont très importants, ils sont rassemblés donc dans le volume Or Israël que j'ai traduit intégralement, et il faudrait s'intéresser effectivement à ce volume parce qu'au fond c'est comme ça que l'on a accès à la pensée de Rabbi Israël Salanter. C'est un ouvrage qui a été publié une vingtaine d'années après sa mort en 1900 à Saint-Pétersbourg par l'un de ses disciples privilégiés qui est Rabbi Yitzhak Blazer et qui rassemble ce livre sous le titre « Or Israël » sur lequel je reviendrai rapidement aussi. Un ensemble de textes assez disparates, il faut bien le dire. Une trentaine de lettres que Rabbi Israël Salanter avait adressées à ses disciples pendant une dizaine d'années, entre 1850 et 1860, mais également des extraits d'articles parus dans une revue qu'il avait publiée, qui est la revue Tvouna, parue entre 1860 et 62, mais qui n'avait connu qu'une douzaine de livraisons. Et puis surtout, l'Igeret à Moussard, l'épître sur le Moussard, qui est en réalité le seul écrit que Salanter est autorisé à la publication et qui est paru en 1858. Mais au-delà de ce recueil de textes de Salanter, Rabbi Yitzhak Blazer est véritablement celui qui a systématisé les enseignements de son maître, dont des dizaines et des dizaines de personnes avaient bénéficié. Rabbi Yitzhak Blazer donc fait suivre les textes de son maître de trois traités dont il est lui-même l'auteur et qui sont véritablement des traités de toute beauté, qui parlent de l'étude du moussard, de la crainte de Dieu et de la nécessité d'étudier le moussard comme préalable à l'étude de la Torah en tant que telle. On peut aussi ajouter d'autres éléments très importants, c'est que, étant donné cette filiation relativement à Chaim de Volozhin, le tournant éthique du judaïsme, finalement, dans l'école du Gaon de Vilna, fait de Rabbi Israël Salanter le véritable héritier d'une tradition kabbalistique très originale, qui ne se confond pas avec la tradition chassidique, mais qui garde toute sa vigueur, chose que l'on méconnaît entièrement. Il y a des schémas d'école dans la recherche qui suggèrent qu'après Chaim de Volozhin, il ne se passe plus rien dans le domaine ésotérique. Or, c'est faux. Le moussard, c'est véritablement une relève de la Kabbale.
Alors, vous citez Rabbi Chaim de Volozhin, qui est très très important, et on le connaît particulièrement bien par le fait que Lévinas y a consacré plusieurs écrits. Mais ce qu'il me semble absent, et pourtant j'ai l'impression que c'est quelque chose de 13 ans, c'est le courant de la Scala. Je me demande si quels sont les liens entre le courant de la Scala, donc de la, on pourrait dire de la réforme juive, et du courant du Moussar. Georgia Sarfati.
Là, il faut aborder la question avec beaucoup de précaution et de finesse. Rabbi Salanter est un grand esprit, au spectre intellectuel très large et aux intérêts multiples. Donc je vais droit au fait. Lorsque, dans les années 50, Rabbi Israël Salanter décide de faire réimprimer un certain nombre de traités du Moussar à l'intention de ses disciples, eh bien, il se trouve qu'il fait preuve d'un grand éclectisme. D'abord, il privilégie en première instance le Moussar médiéval, et il fait republier le traité de Ibn Gvirol qui s'appelle Sefer Tikkut Midot à Nefesh.
C'est-à-dire
on pourrait le traduire par traité pour la rectification des traits de caractère. Voilà. Il y a d'autres traductions, mais je pense que c'est la plus précise. Il fait également rééditer Tomer Dvoura, le palmier de Déborah, de Cordovero. Et puis, bien entendu, du Ramchal, le Messilat Yesharim, le sentier de rectitude. Et surtout, pour répondre à votre question, il fait publier ce qui paraît un peu étrange, un ouvrage qui est le classique à l'époque du Moussar philosophique, de la Haskala, qui est dû à Mendel Lévil de Satanov, qui est lui-même rabbin, et qui s'est inspiré de la psychologie contemporaine pour proposer une nouvelle méthode dont Rabbi Israël va beaucoup s'inspirer dans ses exercices spirituels.
Alors, vous avez cité Rabbi Chaim de Vologine, j'ai parlé de Vilna lors de cette épidémie de choléra. Le mouvement du Moussar s'est développé à ses débuts à Kovno, la ville de naissance un demi-siècle plus tard d'Emmanuel Levinas, philosophe du tournant éthique dans l'histoire de la philosophie. Quel lien voyez-vous entre le mouvement du Moussar et la pensée de Levinas, s'il y en a?
Écoutez, c'est une question très importante et j'ai eu à cœur de souligner ce rapprochement dans mon introduction historique et dans les différentes introductions aux traductions. Il y a indiscutablement un lien. D'abord, dans Difficile Liberté, Emmanuel Levinas fait une allusion à Rabbi Salanter et il dit, en faisant référence à cet enseignement, que les besoins matériels de mon prochain sont mes besoins spirituels. Ça, c'est un point important. Énoncé que je n'ai pas pu vérifier dans les textes que j'ai traduits, qui se trouvent sans doute ailleurs, parce qu'il y a d'autres publications, ce ne sont pas les seules. Et puis, plus profondément, très certainement, de grandes similitudes, de grandes affinités. D'abord, en ce qui concerne la conception du sujet, ce que l'on appelle en philosophie chez Levinas la critique de l'égologie, et qui me semble s'enraciner, bien entendu, de façon générale, dans la critique de l'égophanie, si vous voulez, qui est au cœur de la tradition morale d'Israël, mais plus précisément chez Rabbi Israël Salanter, dans la critique de la vie qui serait ramenée à la seule sphère de l'ego, à la seule sphère égologique. D'autre part, il y a aussi cette problématique du renversement du sujet souverain, dont il dit qu'il est déposé. Sa souveraineté est déposée comme on dépose un roi, en redéfinissant le sujet comme sujet pour autrui. Là, il y a pour moi un lien extrêmement fin entre Levinas et Rabbi Salanter, puisque pour Salanter, et c'est écrit en toutes lettres, un être humain doit avoir le souci d'autrui. C'est sa définition de l'être humain. Troisième point de contact, le renversement de priorité évident que l'on a chez Levinas s'agissant de la définition de l'humain comme mu par ce qu'il appelle la rationalité éthique. C'est même la définition de la spiritualité. La spiritualité comme prima des valeurs et non pas prima du savoir. Or, pour Rabbi Israël Salanter, c'est également en toutes lettres, une existence est spirituelle ou elle n'est pas. Ça, c'est un point très important. Et enfin et surtout, il me semble que chez Levinas, il y a dans ses leçons talmudiques, et là je me tourne vers le versant, disons, juif de son œuvre, parce qu'il aimait distinguer les deux versants, eh bien, une sorte de parchanout qui me semble véritablement être d'inspiration moussarique.
Commentaire.
De commentaire, absolument, qui va de pair avec le prima fortement affirmé chez Rabbi Israël Salanter des mitzvot les chavero, c'est-à-dire des devoirs envers le prochain. Et puis, si vous me permettez, un dernier point de rapprochement. L'affirmation du primat de la sainteté chez Levinas comme l'idéal, la fin même de l'humain, et bien entendu fait un écho direct à la problématique de la Kedusha comme idéal moral du Moussar. Et puis, si vous permettez, enfin, et là c'est vraiment une remarque très personnelle au-delà de l'insistance du chercheur, cet enseignement constant d'Emmanuel Lévinas qui dit « l'éthique est une possibilité de l'humain ». À mes yeux, ce questionnement en appelle un autre. Et ça, c'est vraiment l'interrogation que j'ai devant la tradition du Moussard. Qu'est-ce qui fait que cette possibilité relève trop souvent de l'impossible ? Eh bien, la réponse, pour moi, ne se trouve pas du côté de la philosophie, mais bien du côté du Moussard. C'est-à-dire qu'il y a en effet un potentiel qui ne peut s'actualiser qu'à condition d'être l'objet d'une véritable éducation. Et ça, la philosophie ne le peut pas. Mais le Moussard, oui, et c'est ce qu'il propose.
Merci Georges Elia Sarfati pour cette passionnante conversation et la belle découverte de ce personnage très attachant qui est Rabbi Israël Salanter, découverte qui nous donne envie d'en savoir plus sur le mouvement qu'il a créé, sur les exercices spirituels qu'il a proposés et les liens de ce mouvement avec d'autres savoirs et d'autres pratiques comme la méditation, la philosophie, la psychanalyse et les nouvelles technologies, ce que je vous propose de voir avec vous la semaine prochaine. Je rappelle le titre du premier tome de votre trilogie, La tradition éthique du judaïsme, introduction au Moussard, paru chez Berg International. Merci encore. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui Cédric Châtelus, à la réalisation, comme d'habitude, d'Annie Journeau. Vous pourrez retrouver toutes les informations biographiques et bibliographiques concernant notre invité Georges Elia Sarfati sur le site de l'émission que vous pouvez podcaster, réécouter, commenter et partager. Kol Touv, Leïtraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.